Et pour accueillir notre invité, on décroche notre téléphone.
On déjeune ? Déjeuner ? Non mais tu te fous de moi, déjeuner c'est pour les feignards. Salut Jerry, on se rappelle.
Bonjour Nadia Drou.
Bonjour.
Est-ce que vous avez reconnu cet extrait de film ?
Non.
Le déjeuner, c'est pour les fainéants, une réplique de Michael Douglas dans Wall Street, le film d'Oliver Stone de 1987, plongé dans le monde des traders où la pression est extrême. 30 ans plus tard, la pression au travail, toujours d'actualité, peut-être davantage présente encore dans tous les secteurs professionnels. C'est un peu votre quotidien, Nadia Drou, psychologue, consultante, spécialiste de la santé au travail. Vous constatez cette explosion de la pression au travail, c'est
alors, un constat, la pression au travail est très très présente, elle est en augmentation. C'est vraiment un changement économique, probablement, et un changement sociétal qu'on est en train d'observer.
Y compris dans tous les secteurs. Donc là, effectivement, on avait peut-être l'extrême des traders à New York dans les années 80, mais c'est loin d'être un cas isolé.
Alors, notre constat, c'est qu'il n'y a pas de métier protecteur, en fait. Il n'y a pas de métier où je peux vous assurer que vous n'aurez pas de burn-out. Ça dépend beaucoup des conditions, finalement, dans lesquelles vous exercez votre travail.
Alors, le burn-out, c'est justement au cœur d'un livre qui vient de sortir, que vous avez coécrit avec Annie Valen, publié aux éditions Favre. Burn-out, maladie du 21e siècle, point d'interrogation. Pourquoi ce point d'interrogation? On a encore des doutes, c'est pas forcément cette maladie du 21e siècle.
Alors, la première problématique, c'est que c'est pas reconnu comme une vraie maladie. Donc, on a une diversité des symptômes qui est énorme, donc qui permet pas de poser un diagnostic comme on le ferait pour une autre maladie. Donc, qui permet de le différencier d'autres choses, puisqu'on a plus de 130 symptômes répertoriés.
Donc, on a du mal à définir concrètement encore ce qu'est le burn-out aujourd'hui, c'est ça ?
Alors, pas à le définir, dans le fond, puisqu'on arrive à dire que c'est une conséquence de stress chronique liée à une réunion de facteurs dans la vie professionnelle, dans la vie privée, qui font émerger ce syndrome, si on veut. Par contre, on n'a pas les bons éléments pour dire c'est une maladie, comme on pourrait dire c'est une grippe ou c'est une dépression, si vous avez tel et tel symptôme.
Ces symptômes-là, ce terme-là, burn-out, est-ce qu'il est récent ou est-ce que, quelque part, ça a toujours plus ou moins existé dans le monde professionnel sans mettre cette étiquette-là?
Alors, le terme existe depuis fin des années 60, utilisé comme on l'utilise aujourd'hui. Par contre, notre hypothèse, c'est quand même que le phénomène d'une mauvaise fatigue existe depuis que le travail existe dans le fond et que possiblement il entraîne quelque chose de l'ordre de la fatigue pas gérable, disons.
Est-ce qu'on a des chiffres en Suisse, des proportions du nombre de personnes qui souffrent de burn-out ?
Alors, comme c'est pas une maladie reconnue et qu'on peine à avoir des enquêtes avec des questionnaires de diagnostic qui seraient suffisants, les chiffres existent. En Suisse, ça serait 6%, ce qui est semblable à l'Allemagne et à d'autres pays européens. Mais c'est pas des chiffres qu'on peut prendre à la lettre, j'ai envie de dire. Et puis de l'autre côté, il faut voir la grande variabilité de ces chiffres, puisqu'ils sont de 6% à la population générale, mais on atteint des 60% dans certaines
professions certains secteurs, ouais.
Médicales surtout.
Médical. Alors justement, le médical, c'est votre quotidien. On le disait, vous travaillez au CHU, vous êtes aussi consultante, vous avez votre cabinet. Hein.
Oui.
Et le burn-out, eh bien vous l'observez, vous l'avez observé de près dès votre première expérience professionnelle, un job dans un service social où vous dites c'était une véritable usine à burn-out. Expliquez-nous.
Alors, moi, j'étais toute jeune, j'arrivais là, je regardais, j'avais une super équipe. J'ai jamais eu d'équipe où on a autant rigolé. Par contre, les gens disparaissaient les uns après les autres en arrêt maladie inexpliqué. Et parfois, ils revenaient, parfois pas. Souvent, on n'avait plus du tout de contact. Enfin, c'était une espèce de masse noire de disparition que j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt. Puis, je me suis empressée de partir.
Et vous avez fait quoi, donc, après ?
Après, j'ai travaillé dans une fondation pour alcooliques, dans une assurance perte de gain où je m'occupais de réinsertion professionnelle. Puis, j'ai travaillé pour des consultants en santé au travail où on faisait en particulier des mesures de stress au travail. Et c'est là que j'ai rencontré en 2011, ma co-auteure Annie Valen.
Ça a demandé combien de temps l'écriture de ce livre ? Il a fallu beaucoup se documenter, synthétiser tout ce qui existait déjà sur le burn-out ?
Alors, les deux, ça fait une dizaine d'années qu'on s'intéresse à cette problématique. Ça fait exactement une année et demie que Annie m'a dit « Dis donc, on n'écrirait pas un livre sur notre cours qu'on donnait à des psychologues, donc un cours très spécialisé. » Et moi, j'ai dit oui. Et une année et demie plus tard, ce livre existe. Voilà. Donc c'était plutôt rapide l'écriture elle-même, mais le fond, enfin ce qu'on a mis dedans, c'est des années qu'on travaille dessus.
Alors, on va reparler plus en détail tout à l'heure à 6h15 de ce livre. Mais l'écriture, il y a aussi une autre palette qui vous concerne, Nadia Droz, c'est l'écriture de livres pour enfants. Vous avez publié en 2013 La rivière de Julien. Elle raconte quoi, cette histoire?
Alors, le titre, c'est La rivière de Julien, Lili Unterfluss. Donc, c'est une histoire en deux langues qui raconte l'histoire de deux enfants, un qui parle allemand, l'autre qui parle français, qui se rencontrent et qui ont une problématique à régler ensemble et qui se rendre compte qu'ils ne parlent pas la même langue. Et comment faire si je ne parle pas la même langue que mon interlocuteur et comment peut se faire cette rencontre ?
Il est venu comment le déclic d'écrire un livre pour enfants?
Alors parce que mon co-auteur Carlos Henriquez, qui est humoriste, a fait un spectacle en suisse-allemand où il parle aussi de ce Röstigraben et on lui a fait une demande de faire un livre pour enfants, mais le spectacle ne se prêtait pas. Et comme je suis bilingue, j'ai grandi en Suisse romande, mais je parle suisse-allemand avec mes parents. Il m'a demandé d'écrire avec lui.
Donc il y avait une résonance particulière avec votre propre histoire. Oui. Est-ce que c'est une respiration aussi nécessaire quand on a un métier comme le vôtre? L'écriture de livres pour enfants, ça permet de s'évader de...
C'est complètement autre chose. C'est un projet artistique. C'est vraiment une forme de temps libre et d'amusement. Enfin, il faut que ce soit du plaisir. Là.
Et vous allez Récits d'éveil, je crois, un deuxième livre en préparation,
oui,
pour cet été?
Oui, absolument. On a un deuxième livre pour enfants un petit peu plus grand. Donc, ça serait pour, disons, 11-13 ans, aussi en bilingue, la même formule dans le fond, avec cette rencontre au-dessus du Röstigraben.
Ça pourrait vous donner une idée de réorientation professionnelle, de faire ça à temps plein, ou ça reste pour l'instant une activité annexe? Votre cœur de métier, ça reste votre métier de psychologue de la santé au travail?
Alors très clairement, ma passion, elle est plutôt dans la santé au travail et le reste, vraiment du plaisir, une forme de hobby.
Vous parlez de passion. Est-ce qu'on arrive facilement à décrocher justement quand on rencontre dans la journée des patients qui portent avec eux le poids de cette souffrance, du burn-out, de la pression au travail? C'est facile de tourner la page quand on rentre chez soi le soir, de penser à autre chose ou c'est parfois compliqué?
Alors ça dépend des journées, ça dépend de ce qui se passe. Je dirais le challenge, c'est surtout d'avoir des respirations aussi dans la journée, de pouvoir reprendre son souffle et puis de pouvoir digérer ce qui a pu être entendu. Après, bien sûr, on peut s'outiller, et c'est le but pour les psychologues d'être outillés, pour pouvoir avoir une digestion un peu plus, un peu plus large que d'être complètement envahi.
Vous parlez de ressources, ça c'est un terme qui revient aussi souvent, oui, dans ce livre, hein, sur le burn-out. Justement, les pistes que vous pouvez donner à des patients qui ont souffert de burn-out, comment repartir, comment reprendre de bon pied en entreprise?
Alors la première chose, c'est vraiment de trouver du repos. Et ça demande beaucoup de temps parfois, c'est pas seulement dormir, c'est comment je me repose, qu'est-ce qui est mes ressources en fait, justement, qu'est-ce qui va me faire du bien, et de pouvoir retrouver ça. Et ensuite, c'est de pouvoir éventuellement avoir une discussion avec l'entreprise, si elle est flexible quelque part, si c'est possible, de s'intéresser aux facteurs de stress présents dans les conditions de travail et est-ce qu'ils sont changeables ou pas.
Apprendre donc à bien identifier ce qui nous fait du bien aussi,
oui,
quelque part.